Le journal vous est présenté par Mathilde Cariou.
Bonjour à toutes et à tous. Marion Maréchal entre en campagne pour les européennes. Meeting de lancement du parti Reconquête cet après-midi à Paris. Un objectif, survivre à ce scrutin. Élection législative, cette fois au Portugal, avec une montée de l'extrême droite qui inquiète 50 ans après la révolution des œillets. Et puis nous irons au Liban où l'application Tinder est envahie par les profils israéliens. Après le Rassemblement national à Marseille, Renaissance à Lille, c'est au tour de Reconquête de lancer sa campagne pour les européennes. Ce sera cet après-midi lors d'un meeting au Palais des Sports à Paris. Dans les rangs, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, Éric Zemmour et puis bien sûr la tête de liste, Marion Maréchal. Une prise de parole attendue également du coprésident des conservateurs italiens au Parlement européen, Nicolas Procaccini. L'enjeu de cette élection, Antoine Maret, c'est tout simplement la survie de Reconquête.
Pour espérer survivre politiquement, Reconquête doit à tout prix atteindre le seuil de 5% pour obtenir des élus au Parlement européen. Pour l'instant, les sondages, à manier avec beaucoup de précautions pour des européennes, donnent à la liste menée par Marion Maréchal entre 5 et 8%, légèrement en dessous de celle de LR. Et c'est là le deuxième enjeu pour le parti d'Éric Zemmour, dépasser la droite en se différenciant de la tête de liste François-Xavier Bellamy. Pourtant assez proches politiquement de Marion Maréchal, les deux sont à la fois conservateurs sociétalement et libéraux économiquement. La nuance se joue sur le sujet de l'immigration, Marion Maréchal étant ouvertement identitaire. Mais la cible est la même, un électorat aisé et ultra-conservateur, que tente également de séduire Jordan Bardella très loin devant dans les intentions de vote. La tête de liste du RN a surjoué dimanche dernier la carte identitaire. Cela fait beaucoup de prétendants pour une niche électorale. Et dans ce jeu de massacre, Reconquête comme LR ont beaucoup à perdre.
Et cette campagne Reconquête, nous y reviendrons à la mi-journée puisque Nicolas Bay sera l'invité du journal de 12h30. Week-end très politique au Portugal également. 9 millions de citoyens sont appelés aux urnes pour les élections législatives. Les socialistes sont au pouvoir depuis 8 ans mais se retrouvent derrière la droite dans les sondages. Et l'extrême droite est donnée en forte hausse, deux fois plus puissante qu'il y a 2 ans, alors que le pays fête cette année les 50 ans de la chute de la dictature salazariste. C'était en avril 1974 avec la révolution des œillets. Ceux qui l'ont faite s'inquiètent aujourd'hui de la progression de l'extrême droite. Reportage à Porto avec Julie Pietri et Johanna Gabric.
Il y a 50 ans, le 25 avril 1974, 200 capitaines de l'armée mènent le soulèvement contre le pouvoir salazariste. Castro Carneiro est l'un d'entre eux.
Mon père, très catholique, et ma mère adoraient Salazar. Si le 25 avril a mis fin au fascisme, il n'a pas supprimé les fascistes.
Il y a quelques années, André Ventura, le leader de Chega, a scandé la vieille devise de la dictature.
Deus, patria, familia y trabajo.
Dieu, famille, patrie, à laquelle il a ajouté le mot travail. Alors l'extrême droite au pouvoir, Castro Carneiro la redoute énormément.
Quand je vais témoigner dans les écoles, je me sens un peu comme un animal qu'on voit au zoo. Les jeunes n'ont pas conscience de ce qu'était la dictature, le fascisme.
Cette conscience, Manuela Matos Monteiro l'a ancrée en elle pendant la dictature. Elle organisait réunions secrètes et tractages.
C'est une peur intériorisée. La mémoire, c'est très important, mais c'est aussi très difficile à transmettre. Parce que c'est seulement quand tu es privé de liberté que tu sais ce qu'est la liberté.
Selon une récente étude, les électeurs les plus séduits par Chega sont aussi les plus nostalgiques de la dictature de Salazar.
Un reportage à Porto signé Julie Pietri. Sur le front de la guerre à Gaza, 200 tonnes de nourriture devraient quitter Chypre par bateau direction l'enclave palestinienne pour ravitailler les civils toujours très menacés par les bombardements et la famine. D'après le ministère de la Santé du Hamas, au moins 23 personnes sont mortes de malnutrition et de déshydratation à Gaza. Pour ce qui est des négociations, elles semblent au point mort. L'enjeu portait sur une trêve pendant le Ramadan, mais le gouvernement israélien accuse le Hamas de ne pas être intéressé par un accord et de vouloir enflammer la région pendant cette période. On va rester au Proche-Orient avec cette conséquence un petit peu étonnante de la guerre à Gaza. Depuis le 7 octobre, le nombre de profils israéliens sur Tinder explose au Liban. Selon le quotidien L'Orient Le Jour, plus de 60% des profils localisés à Beyrouth habitent en fait en Israël. Explication depuis le Liban avec Noé Pignède.
Lorsque l'on ouvre Tinder depuis Beyrouth ces derniers temps, les profils avec des noms hébreux défilent. Par dizaines, l'application de rencontre est envahie de photos d'israéliennes et d'israéliens, souvent en treillis militaire, et ces profils sont localisés toujours très proches, parfois à moins d'un kilomètre, alors que la frontière avec Israël est à plus de 100 kilomètres au sud. Les deux pays sont officiellement en guerre depuis des décennies, alors beaucoup ont d'abord cru qu'il s'agissait d'espions israéliens chargés d'infiltrer le réseau de rencontres. Mais en fait, l'explication est beaucoup plus simple pour mettre en relation les profils. Tinder utilise les coordonnées GPS de ses utilisateurs, ce qui permet de draguer des gens proches de chez vous. Sauf que depuis le 7 octobre, les Israéliens ont augmenté la puissance de leur brouilleur GPS, notamment pour perturber les tirs de missiles du Hezbollah. Ça fausse aussi la localisation des téléphones portables des deux côtés de la frontière et ça fait donc bugger Tinder. Peu de chance en revanche que ces rencontres virtuelles se concrétisent autour d'un verre. Entre Israël et le Liban, il y a toujours un mur infranchissable. Peu de chance même que des Libanais osent engager la conversation sur l'application. Ici, la loi interdit d'échanger avec des Israéliens. C'est un crime passible de plusieurs années de prison.
Noé Pignet à Beyrouth pour France Culture. Dans l'actualité également, les Irlandais qui s'opposent à une modification de leur constitution. Le référendum proposait un élargissement du concept de famille au-delà de la notion